Décryptage.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Un invité exceptionnel ce soir dans Décryptage. Il est considéré comme l'un des penseurs les plus influents de l'époque, celui qui a développé la théorie de l'effondrement. Le biologiste, historien et géographe américain Jared Diamond publie un nouvel ouvrage dont le titre tient en un seul mot. Bouleversement, c'est un titre qui illustre bien ce que le monde est en train de vivre. Dans ce livre, Jared Diamond s'intéresse aux crises dans 7 pays, la Finlande, le Japon, le Chili, l'Indonésie, l'Allemagne, l'Australie et les États-Unis. Comment la crise survient? Comment est-elle traversée? Quelle comparaison peut-on faire? Nous allons aborder tous ces thèmes à la lueur de l'actualité. Soyez les bienvenus. Bonsoir Jared Diamond.
Good evening Jared.
Good evening, good morning from
Bonsoir et bonjour des États-Unis.
Voilà, plutôt bonjour pour vous car effectivement vous êtes en ligne depuis Los Angeles et je salue au passage Michel Zlotowski qui est à mes côtés en studio et qui va assurer la traduction de cet entretien. Alors pour débuter, Jared Diamond, je voudrais évoquer une crise que vous développez peu dans votre livre, à part dans l'après-propos, évidemment car cette crise débutait à peine au moment où vous écriviez votre livre, c'est la crise du coronavirus. Quel regard est-ce que vous portez sur cette crise du coronavirus?
Well, my book's timing was
Eh bien, le moment où j'ai publié mon livre est absolument parfait, parce que mon livre a été publié en 2019, avant la crise du Covid. Et pourtant, ce que j'écris s'applique tellement bien à la crise du Covid. Le Covid est une crise globale, mondiale. Mon livre porte sur des crises nationales, mais il se conclut par un chapitre sur la crise que le monde va rencontrer. Et les crises mondiales, c'était surtout les crises du changement climatique et véritablement de la fin des matières premières. Mais le Covid est une crise aiguë qui illustre tellement bien les problèmes des crises en général que décrit mon livre. La première étape pour résoudre une crise, c'est de se rendre compte qu'il y a une crise. Certains pays le font, d'autres, comme le président de mon pays, refusent de reconnaître qu'il y a une crise. Pour résoudre une crise, il faut accepter les responsabilités. Certains pays acceptent leur responsabilité de devoir faire des changements, d'autres, comme dans le pays de mon président bien-aimé, se contente de faire porter la faute sur la Chine, sur d'autres, et de ne pas accepter les responsabilités pour faire des changements. Et donc, la crise actuelle du Covid est une crise mondiale. Mais, comme mon livre parle de crise nationale, j'ai inclus aussi, à la fin, une discussion, un débat sur les crises mondiales.
Ce que vous voulez nous dire, c'est que la crise du coronavirus est la conséquence d'une crise du changement climatique?
Seulement de façon secondaire. La crise du Covid a des causes très spécifiques. La cause, c'est un contact entre les êtres humains et des animaux sauvages dans le marché des animaux de Wuhan, en Chine. On a déjà eu une épidémie semblable en 2002, l'épidémie du SARS, à cause de contacts entre les êtres humains et des animaux sauvages sur des marchés d'animaux sauvages en Chine. Ces marchés auraient dû être fermés en 2003. Ils n'ont pas été fermés. Et le résultat, c'était l'émergence d'une maladie animale, une zoonose. Mais c'est devenu quelque chose, c'est devenu une pandémie humaine. Toutes ces crises, toutes ces pandémies ont été dues à des contacts entre humains et animaux sauvages. La vache folle, Ebola, la fièvre de Marburg, toutes ces crises, toutes ces pandémies viennent de contacts entre humains et animaux sauvages. Le réchauffement climatique, c'est une cause secondaire. Il faut absolument que la Chine se mette à limiter ou interdire les contacts entre êtres humains et animaux sauvages sur ces marchés.
Alors, c'est le fil conducteur de votre livre, Jared Diamond. Vous faites un parallèle entre les crises personnelles qu'un individu peut traverser et les crises auxquelles des pays doivent faire face, les sept pays que vous citez dans, dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parallèle ?
Yes, indeed. So the, my book
Tout à fait. Mon livre parle de crise nationale. J'ai écrit ce livre parce que le pays que je connais le mieux, celui où j'ai vécu le plus au cours des dernières années, le Chili, l'Indonésie, l'Allemagne, l'Italie, tous ces pays sont passés par des crises nationales. Ma femme est une psychothérapeute et une psychologue qui travaille avec des gens qui sont en crise personnelle, des crises que nous avons tous traversées, des crises personnelles suite à, par exemple, à la dissolution d'un mariage ou la perte d'un emploi ou un problème de santé. En aidant ses patients, elle a développé une thérapie en discutant avec ses patients et elle m'a expliqué quels étaient les indicateurs de ce qui allait se passer si les gens allaient pouvoir surmonter une crise. Ils doivent reconnaître qu'il y a tout d'abord une crise. Ils peuvent résoudre la crise s'ils acceptent leurs responsabilités. Ils peuvent résoudre la crise s'ils sont honnêtes envers eux-mêmes, s'ils ont de l'aide de leurs amis, ou s'ils peuvent regarder quels sont les gens qui ont surmonté ce genre de crise et les prendre comme modèle. Et donc elle m'a dit que, exactement, c'est la même chose probablement dans les crises nationales. Il faut d'abord reconnaître que vous êtes en crise. Si vous le reconnaissez ou si vous niez la crise, ça fait une grosse différence. Est-ce qu'une nation peut recevoir de l'aide d'une autre nation ou pas aussi ? Donc le livre s'inquiète, ou plutôt s'intéresse aux crises nationales en faisant un parallèle avec les crises personnelles.
In this perspective of national crises.
Et en fait, on débouche sur cette approche des crises personnelles parce que ça nous aide à comprendre comment résoudre les crises nationales.
Justement, comment les résoudre ? C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que le traitement est le même pour une crise personnelle que pour une crise nationale ?
Oui et non. Il y a des différences évidentes entre une crise nationale et une crise personnelle. La grande différence, c'est que les nations ont des dirigeants. Les individus n'ont pas de dirigeants. Le dirigeant, ça peut faire une grosse différence, pour le mieux ou pour le pire, pour résoudre une crise nationale. Il y a, par exemple, les nations sont constituées de groupes d'individus. En France, à l'époque de la guerre en Algérie, ou à l'époque... Lorsque la République était en risque, en 1958, il y avait différents groupes de Français avec des opinions différentes. Ces opinions devaient être réconciliées. Un individu dans une crise personnelle n'a pas ce problème à résoudre, de réconcilier différents groupes. Ce sont les grandes différences entre la crise personnelle et une crise nationale. Mais cela dit, il y a tellement de similarités, de ressemblances. Les individus peuvent recevoir une aide d'autres individus. Les pays peuvent recevoir de l'aide d'autres pays. Les gens peuvent regarder d'autres personnes, les considérer comme modèles pour résoudre leur crise. Et les pays peuvent regarder ce qui se passe dans d'autres pays pour résoudre leur crise. Les pays peuvent nier la crise, nier leurs responsabilités. Et pareil, les individus aussi peuvent nier leurs responsabilités dans leur propre crise. En bref, ce qui est prédictif pour réussir, pour surmonter une crise, eh bien, sont extrêmement semblables aux prédictifs qui peuvent vous dire si un pays pourra surmonter ou non une crise.
Jared Diamond, dans le prologue, vous définissez votre livre Bouleversement donc comme un livre comparatif. Vous écrivez ceci, les pages de ce livre abordent non pas une mais sept nations et ce à des fins de comparaison. Est-ce qu'on peut définir un mécanisme de comparaison entre des crises aussi diverses que celles que vous soulevez, donc la guerre entre la Finlande et l'Union soviétique par exemple, ou encore le Chili sous Pinochet ?
There are different sorts of national crises, just as there are different sorts of personal crises.
Il y a différentes crises nationales, tout comme il y a différentes crises personnelles. Certaines crises personnelles viennent de la rupture d'un mariage, de la perte d'un être aimé. Et de façon semblable, les crises nationales peuvent avoir des crises différentes. La crise en Finlande, en 1939, a été déclenchée par une invasion, l'invasion de l'Union soviétique. Pinochet, le Chili, la crise est venue en 1973 d'un coup d'État. De même, en France, en 1958, il y a eu une crise. La France n'a pas été envahie par un autre pays. C'était tout simplement qu'il y a eu l'effondrement d'un système politique en France et les problèmes de la France avec ce qui était à l'époque un département, l'Algérie. Il y avait des différences donc entre les crises nationales, tout comme dans les crises personnelles. Mais toutes les crises nationales, tout comme les crises personnelles, impliquent des prédicteurs. Nous savons que une crise dans un mariage, c'est différent d'une crise à laquelle vous devez faire face si votre enfant meurt, par exemple. Mais ça soulève des questions semblables. Reconnaître la façon dont vous avez mené votre vie jusqu'à présent ne fonctionne plus. Vous devez choisir de changer quelque chose dans votre vie. Vous devez changer quelque chose dans votre façon d'être et de vivre. Et bien, de même, il y a des thèmes internationaux, des thèmes semblables dans les crises nationales. La Finlande en 1939, le Chili en 1973, l'Allemagne en 1961, lorsque le mur de Berlin a été érigé, et ce qui se passe présentement aux États-Unis avec l'effondrement du compromis en politique. Il y a des points communs.
Justement, ce qui se passe aux États-Unis, vous qui êtes américain, Jared Diamond, nous sommes à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle. Comment est-ce que vous jugez la campagne et que vous inspire l'enjeu du 3 novembre prochain ?
L'élection à venir. En anglais, on a une expression. Ça veut dire nous avons une expression qui signifie en fait tout peut arriver. Le pire qui puisse arriver aux États-Unis, c'est que ça pourrait être la fin de la démocratie aux États-Unis. Cette élection de novembre pour les États-Unis pourrait être comme 1933 en Allemagne, lorsque Hitler a saisi le pouvoir. Ça pourrait être comme 1924 en Italie, lorsque Mussolini a imposé son leadership. Il y a un risque grave que cette élection marquera la fin de la démocratie aux États-Unis. C'est le pire des scénarios. Le meilleur pourrait être que l'élection se déroule de façon raisonnablement honnête et que tous les citoyens aient l'occasion de voter et que le résultat soit reconnu par le gouvernement fédéral, par les cours, et que quelqu'un d'autre arrive au pouvoir. Nous connaîtrons le résultat peut-être aussitôt que le 3 novembre, mais plus que certainement, ça prendra un certain temps pour calculer, pour compter les votes. Ça risque de poser quelques problèmes, et peut-être qu'on ne connaîtra pas le résultat avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l'élection. C'est l'élection la plus importante dans l'histoire contemporaine des États-Unis.
Alors, il y a de nombreuses menaces aux États-Unis, la concurrence avec la Chine, par exemple, mais vous écrivez dans Bouleversement que le problème le plus dangereux aujourd'hui, c'est la polarisation politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, sachant que depuis la sortie de votre livre, la campagne a encore renforcé cette polarisation politique aux États-Unis ?
Tout à fait. La polarisation, ça signifie la chute, la disparition du compromis. L'essence de la démocratie, c'est le compromis. Il y a toujours des opinions différentes dans une démocratie. Pour qu'elle fonctionne, les gens doivent pouvoir exprimer leur vue, leur point de vue, et trouver un compromis entre des opinions différentes, divergentes. Aux États-Unis, le compromis n'a plus existé depuis les années 90. Lorsque Bill Clinton était président, il y avait des dirigeants politiques qui se sont opposés systématiquement à tout ce que proposait le président Clinton. C'était la fin du compromis. Ça a empiré depuis, au cours des 10-15 dernières années. Et la fin du compromis politique est vraiment un problème extrêmement aigu. Alors, la question, c'est pourquoi cette disparition du compromis? C'est pas le seul pays au monde où il n'y a plus de compromis. Dans certains pays de l'Union européenne, c'est la même chose. Il n'y a plus de compromis possible. Même en Australie, aujourd'hui, il n'y a plus de compromis politique. Donc, il y a un phénomène mondial du déclin du compromis qui pose la question pourquoi? Pourquoi est-ce que les États-Unis deviennent des leaders dans cette très mauvaise tendance?
C'est une tendance mondiale qui est liée, selon vous, aux dirigeants Donald Trump. Vous évoquez dans votre livre le président brésilien, Jair Bolsonaro.
Je ne pense pas que cette disparition du compromis soit due aux dirigeants politiques. Aux États-Unis, il y a toujours eu des gens qui avaient des positions différentes, mais jusqu'à récemment, ces gens arrivaient à un compromis. Le problème, c'est que dans les années 80, on a eu le président Ronald Reagan, qui était très conservateur. On avait un président du Sénat, Tip O'Neill, qui était un libéral au sens américain du terme. Reagan et Tip O'Neill étaient totalement divergents dans leur vie politique, mais ils se respectaient. Chacun reconnaissait que l'autre avait des droits et des devoirs. Et O'Neill et Reagan, finalement, arrivaient à des compromis politiques. Et sur les graves problèmes du moment. Donc il y avait toujours un compromis possible jusque dans les années 80. Ce qui se produit depuis a créé la fin du compromis. Et je fais une spéculation dans mon livre. La raison fondamentale du déclin du compromis, c'est la communication face à face dans le monde moderne. Vous savez, jusqu'à il y a des milliers d'années, depuis des milliers d'années, lorsqu'il y avait un face-à-face, on était véritablement physiquement face-à-face, on se voyait, on pouvait même se toucher, on pouvait même se sentir, et il y avait un langage corporel. Mais avec l'invention des médias, c'était la fin. Et au cours du dernier siècle, ça s'est encore accru, avec le télégraphe, la radio, le téléphone, et maintenant avec les téléphones portables. Donc la plus grande partie des communications entre les gens dans le monde développé n'est plus en face-à-face, c'est par l'intermédiaire d'un écran. Et ce qui se passe sur un écran, vous n'avez pas l'expérience de l'autre, vous avez l'expérience de ce qui se passe sur l'écran. Il est beaucoup plus facile d'insulter quelqu'un, vous pouvez crier sur quelqu'un d'autre quand c'est sur un écran. Et vous ne le feriez pas si vous étiez en face à face. Donc moi, je pense que le déclin du compromis politique provient du fait que il n'y a plus de lien direct entre les individus en raison du déclin de la communication en face à face. Ça se produit dans d'autres pays aussi, en France par exemple. Vous avez aussi le téléphone et la radio, bien sûr. Mais ça a débuté, cette tendance, aux États-Unis. Et les États-Unis ont pris la tête de cette mauvaise habitude, dans cette difficulté à arriver à un compromis.
Notre émission touche à sa fin, Jared Diamond. Pour conclure, j'aimerais citer ces lignes qui interviennent avant l'épilogue de votre livre « Bouleversement ». Les voilà. « Nos problèmes, en particulier ceux touchant à la démographie et à la consommation, se sont considérablement aggravés depuis 2005. Mais parallèlement, la prise de conscience de nos problèmes et les efforts déployés à l'échelle mondiale pour les résoudre ont également considérablement gagné en puissance depuis 2005. Pour l'instant, personne ne sait quel cheval arrivera le premier. » Fin de citation. Merci Jared Diamond.
It's a great pleasure. Thank you very much for your patience.
C'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Jared Diamond, géographe, historien et biologiste nord-américain. Votre dernier livre, Bouleversement, aux éditions Gallimard. Merci à Michel Zotowski pour la traduction de cet entretien. Éléonore Krenik à la préparation de cette émission. Claude Battista à la réalisation. Restez à l'écoute de RFI.